bactériologique. Et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin.
Ce sont les images que vous avez trouvées en arrivant à Paris.
Mais oui, c'était à ce moment-là, à mon arrivée, que ça s'est commencé. En France, 1924, comme vous le savez, c'était la mode de les femmes. Les femmes étaient très blanches, de peau jolie et pâles. Toutes les femmes étaient roses, les longs chevelures.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Notre sujet ce matin appelle une justification spécifique. On pourrait se demander un instant si la figure dont nous allons parler a vraiment existé ou si elle serait seulement le produit nuageux de fantasmes ambigus. Quand je vous aurais dit qu'il va s'agir du mythe de la Parisienne, oui, la Parisienne, depuis le XVIIIe siècle jusqu'à nos jours, vous admettrez, je pense, la possibilité d'un doute initial. L'histoire est-elle capable de s'en saisir sans que sa réalité glisse entre les doigts au point de se dérober à toute analyse concrète? Eh bien, avec l'aide d'Emmanuel Retailleau, je pense vous démontrer que cette inquiétude se dissipe dès lors qu'on se persuade que les perceptions, même concernant des objets qui peuvent sembler flous au premier abord, méritent toujours d'être considérées en elles-mêmes. Car les représentations en mouvement constituent en soi des faits aussi réels que les données les plus matérielles, qu'elles ne cessent d'ailleurs pas d'influencer. Emmanuel Retailleau est maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'université de Tours et elle publie un livre stimulant et sagace sur ce thème de la Parisienne. Il concerne à la fois la littérature et les arts, les relations entre Paris et la province, le poids du monde extérieur en face de la France et de sa capitale, le jeu infini des modes et des apparences et naturellement, les relations entre les deux sexes, incluant la longue chronique des combats féministes. Le tout s'inscrit entre le poids des traditions et la quête incessante d'une modernité. Mon invité distingue dans la Parisienne, excusez du peu, je la cite, une dimension de repère dans la tourmente, de totem protecteur, de figure cathartique et parfois, de poupée vaudou. Voilà bien, n'est-ce pas, un propos qui exige quelques lumières.
Lorsque je suis arrivée dans la capitale, j'aurais voulu devenir une femme fatale. Mais je ne buvais pas, je ne me droguais pas et n'avais aucun complexe. Je suis beaucoup trop normale, ça me vexe. Je ne suis pas parisienne, ça me gêne. Je ne suis pas dans le vent, c'est navrant. Aucune bizarrerie, ça m'ennuie. Pas la moindre affectation, je ne suis pas dans le ton. Je ne suis pas végétarienne, ça me gêne. Je ne suis pas caradiaque, ça me met dans l'embarras. Je ne suis pas cinéphile, c'est débile. Je ne suis pas MLF, je sens qu'on m'en fait grief. Bientôt, j'ai fait connaissance d'un groupe d'amis vivant en communauté dans le même lit. Comme je ne buvais pas, je ne me droguais pas et n'avais aucun complexe, je crois qu'ils en sont restés tout perplexes. Je ne suis pas nymphomane, on me blâme. Je ne suis pas travesti, ça me nuit. Je ne suis pas masochiste, ça existe. Pour réussir mon destin, je vais voir le médecin. Je ne suis pas schizophrène, ça me gêne. Je ne suis pas hystérique, ça se complique. Oh, dit le psychanalyste, que c'est triste. Je lui dis, je désespère, je n'ai pas de goût pervers. Me dit le docteur en se rhabillant. Après ce premier essai, c'est encourageant. Si vous ne buvez pas, vous ne vous droguez pas et n'avez aucun complexe. Vous avez une obsession, c'est le sexe. Depuis je suis à la mode,
je me rôde
dans les lits de Saint-Germain.
C'est divin.
Je fais partie de l'élite,
ça va vite.
Et je me donne avec joie
tout en faisant du yoga.
Je vois les films d'épouvante, je m'en vante en serrant très fort la main du voisin, me sachant original.
Je cavale,
j'assume ma libido, je vais draguer en vélo. Maintenant je suis parisienne, je me surmène et je connais la détresse. Enfin à l'écologie,
je m'initie.
Et loin de la pollution,
je vais tendre mes moutons. Et loin de la pollution, je vais tendre mes moutons. Et loin de la pollution, je vais tendre mes moutons.
Emmanuel Retailleau, bonjour.
Bonjour.
J'ai le sentiment que vous auriez été un peu déçu si je ne vous avais pas donné à entendre cette chanson si célèbre de Marie-Paul Bell, une chanson de 1976, la musique est d'elle, et les paroles sont de Françoise Malégeorris et Michel Grisolia.
Effectivement, c'est une des chansons les plus connues sur la Parisienne, même si en l'occurrence, la Parisienne se dessine en creux, puisque la chanteuse se définit comme une non-parisienne.
Oui, mais elle le devient.
Tout en brossant de cette Parisienne un portrait assez ambigu, hein, puisque elle est élitiste, elle est snob, elle est affublée de complexes, elle se drogue, elle boit, donc elle a une vie un petit peu dissolue. C'est aussi une Parisienne tardive, hein, puisqu'on est au milieu des années 70 et que les modèles sont en train de changer, de bouger, et sont finalement assez peu conformes à ce qu'a été la Parisienne à l'origine.
Mais ça se termine par l'écologie, puisqu'elle retourne à ses moutons.
Tout à fait, il y a une pirouette finale qui consiste à dire, ben, finalement, on est peut-être mieux à la campagne. Là encore, en plein mouvement hippie, en pleine création de l'écologie, la Parisienne est-elle encore à la mode à ce moment-là? C'est la question que pose implicitement la chanson.
Est-ce qu'elle peut paraître comme un repère dans la tourmente, puisque c'est la formule qui est la vôtre et que je citais tout à l'heure, comme un totem protecteur, comme une figure cathartique, comme une poupée vaudou?
Alors je vais revenir un petit peu en arrière, repère dans la tourmente, parce que la Parisienne est finalement une figure plutôt positive, même si on va voir qu'elle est plus ambivalente qu'il n'y paraît, et qui traverse les siècles, en tout cas qui traverse les siècles de notre histoire contemporaine, une histoire très heurtée, très bouleversée, avec beaucoup de conflits de classe et de mouvements révolutionnaires. Cette Parisienne, elle a résisté finalement au temps, en renforçant au fil des périodes, justement, cet aspect positif, charmant, séducteur.
Totem, pourquoi un totem ?
Totem, parce que elle fait l'objet d'une sorte d'adoration finalement, et d'une adoration ou d'admiration qui est de moins en moins interrogée ou discutée avec le temps.
Protecteur, dites-vous, totem protecteur, elle protège ?
Protecteur, parce qu'elle fait partie des valeurs positives que l'histoire de France a construit avec le temps, au même titre que le vin, la gastronomie. Et donc elle fait encore partie aujourd'hui de ces beaux restes que nous pouvons mobiliser pour défendre notre identité nationale et notre patrimoine culturel.
Et pourquoi la catharsis ?
Catharsis...
Figure cathartique, dites-vous.
Oui, parce que justement, elle va souvent permettre de résoudre ou de sublimer cette histoire heurtée en offrant un symbole positif aux femmes de cette capitale qui a pourtant aussi produit des figures négatives, la figure de la pétroleuse par exemple, ou les poissardes de la Révolution. Donc elle permet de dépasser finalement tous ces conflits.
La réponse que j'attends avec le plus de curiosité, c'est celle qui concerne la poupée vaudou. En quoi la Parisienne est-elle une poupée vaudou ?
Parce qu'elle a aussi parfois fait l'objet de règlements de compte. Elle a permis aux hommes, je pense, de se défausser finalement d'un certain nombre de leurs responsabilités et parfois même de comportements ouvertement sexistes en faisant porter à la Parisienne le chapeau de la séduction érotique, d'une certaine négativité. Et elle sert souvent de déversoir finalement à la mauvaise conscience masculine.
Eh bien, Emmanuel Retailleau, voici bien un sommaire de notre conversation qui s'ouvre. Et naturellement, je voudrais qu'on revienne au moment où il vous apparaît légitime de commencer à parler de la Parisienne en tant que mythe, sinon en tant que réalité?
Alors, les femmes de Paris, on en parle depuis très longtemps. Hein, dans la littérature du Moyen-Âge, on trouve déjà des éloges de Paris qui soulignent la supposée beauté, l'élégance des femmes de la capitale. Mais je pense qu'il faut attendre le XVIIIe siècle et même la deuxième moitié du XVIIIe siècle pour qu'on voit émerger une identité spécifique et un système de représentation à la fois positif et négatif qui se développe autour des femmes de Paris avec leurs qualités et leurs défauts supposés. De ce point de vue, une des dates fondamentales, c'est bien sûr le roman de Jean-Jacques Rousseau, Julie ou la Nouvelle Héloïse, qui est publié en 1761 et qui développe un portrait assez complexe et nuancé, finalement, des Parisiennes. Alors, on ne dit pas encore la Parisienne au singulier, mais c'est les Parisiennes, et Rousseau crée vraiment un type.
D'ailleurs, il évoque dans ses lettres, c'est le jeune homme Saint-Preux qui évoque dans ses lettres les femmes de la ville à la demande de sa fiancée. « Toi qui me parlais des Valaisannes, habitants du Valais en Suisse, avec tant de plaisir, pourquoi ne me dis-tu rien des Parisiennes ?» Ces femmes galantes et célèbres valent-elles moins la peine d'être dépeintes que quelques montagnardes simples et grossières? Voilà déjà une opposition, une antinomie.
Tout à fait. Alors déjà, ça nous montre que les Parisiennes, à ce moment-là, sont enveloppées d'une sacrée réputation, coquettes et galantes. Donc il y a une pointe de jalousie hein, dans la remarque de Julie. Mais le portrait que va dresser Rousseau est globalement négatif. Il va l'opposer justement à la femme naturelle, la femme idéale, qui respecte les lois de la nature, dont la beauté est saine, évoque les beaux fruits, comme il l'écrit, tandis que les Parisiennes se caractérisent par le goût de l'artifice, par des modes anti-naturels et même par, dit-il, la négation de leur sexe, au point qu'il les compare parfois à des hommes en disant elles ont l'assurance finalement et l'aplomb qu'on attend des hommes, et c'est évidemment quelque chose qu'il réprouve.
Est-ce que c'est déjà l'occasion de dire que la Parisienne est une sorte de construction sociale?
La Parisienne est entièrement une construction sociale et culturelle. Et bien sûr, Rousseau dresse ce portrait à partir du très mince vivier de femmes du monde et de femmes de l'aristocratie qu'il a rencontrées lors de ses séjours parisiens. Donc c'est une fantasmagorie hein, qu'il manipule un petit peu au gré de ses fantasmes et de ses théories, car il y a des enjeux idéologiques forts là-dessous.
Peut-être de ses frustrations.
De ses frustrations aussi, bien sûr, puisqu'on sait qu'il a été l'amoureux malheureux, le soupirant malheureux de certaines de ces salonnières parisiennes qui l'ont reçu mais qui n'ont pas répondu à ses avances.
Donc il paraît légitime de dater l'apparition de la Parisienne en tant que telle. On pourrait chercher une préhistoire du côté des précieuses ridicules avec ces provinciales qui arrivent à Paris pour se heurter aux réalités de la capitale. Mais c'est vraiment le XVIIIe siècle finissant qui est la matrice de cette émergence. Et d'ailleurs on trouve d'admirables publicistes, des commentateurs, par exemple Rétif de la Bretonne ou Mercier. Nous avions consacré une émission à l'admirable Mercier qui évoque les Parisiennes en tant que telles. Voilà un extrait qui va peut-être vous amuser, Emmanuel Retailleau.
La couleur générale au moment que j'écris est dos et ventre de puce. On a raffolé surtout des bonnets au parc anglais. On a vu sur la tête des femmes des moulins à vent, des bosquets, des ruisseaux, des moutons, des bergers et des bergères. Un chasseur dans un taillis. Mais comme ces coiffures ne pouvaient plus entrer dans un vis-à-vis, on a créé le ressort qui les élève et les abaisse. Dernier chef-d'œuvre d'invention et de goût. L'histoire des poufs, paix en l'air, coques, chignons, bouillons, chiffons devrait être confiée à l'Académie des Belles Lettres qui fait des recherches si profondes sur les colliers et ornements que portaient les dames romaines. Et le présent? Pourquoi n'en pas parler? Les bonnets à la grenade, à la tisbée, à la sultane à la Corse ont passé, ainsi que les chapeaux à la Boston, à la Philadelphie, à la Colin Maillard. La coiffure en limaçon penche sur son déclin.
C'était donc un extrait des tableaux de Paris qui sont parus entre 1782 et 1788, à la veille même de la Révolution, les tableaux de Paris de Louis-Sébastien Mercier. Le texte est lu ici par Bernard-Pierre Donadieu sur France Culture le 15 novembre 1994. Émergeant déjà de la question de la mode.
Oui, alors effectivement, dans ce passage, Louis-Sébastien Mercier souligne un des traits essentiels de la réputation de la capitale et de ses femmes, qui est leur rapport à la mode. Dès la fin du XVIIe siècle, la France a eu l'ambition d'avoir une position de leader en matière de mode, et plus particulièrement de mode féminine. Et au cours du XVIIIe siècle, la capitale est effectivement devenue extrêmement réputée à l'échelle de toute l'Europe pour ses fournisseurs, ses boutiques, ses marchands de mode, au point qu'à la fin du XVIIIe siècle, la mode atteint des sommets d'extravagance qui sont ici évoqués de manière très, très, très plaisante. C'est quelque chose qui va rester l'idée d'une mode sophistiquée, d'une mode recherchée, et d'une mode qui change vite. On entre ici aussi dans le thème de la modernité. Paris devient la capitale de la modernité à travers précisément cette accélération de la rotation des modes.
J'ai le sentiment à vous lire que le thème de la modernité court à travers ces trois siècles. La Parisienne est-elle ou non moderne? Comment peut-elle l'être? Comment peut-elle imposer cette modernité?
La Parisienne est conçue précisément comme le fruit de la modernité, comme le symbole de cette modernité dont... Encore une fois, la mode est le principal marqueur, hein, puisqu'elle va être un petit peu le porte-étendard du capitalisme naissant et un secteur qui invite à consommer, qui invite à renouveler très rapidement les objets. Mais c'est lié aussi à l'histoire de la capitale elle-même, puisque dans cette fin du XVIIIe siècle, Paris s'émancipe nettement de Versailles.
Le modèle curial est en déclin.
Absolument, le modèle curial est en déclin. La royauté, la monarchie est fortement critiquée, a perdu de sa puissance, hein, sous le règne de Louis XV et plus encore de Louis XVI. Et le mode de fonctionnement de la cour est de plus en plus critiqué. Donc la Parisienne, elle naît aussi justement dans ces salons parisiens, cette aristocratie parisienne qui met à distance les codes de plus en plus pesants et contraignants de la cour. Et plus encore, et c'est ça qui est intéressant chez Rétif de la Bretonne ou chez Mercier, au sein de cette petite bourgeoisie marchande qui a elle aussi des prétentions au consumérisme, à la mode. C'est quelque chose qui a été très bien analysé par l'historien Daniel Roche et qui va donc représenter un vecteur proprement urbain de transmission des nouvelles manières d'être et de paraître.
Qui déjà nous conduit vers une réflexion sur le caractère transclassiste de cette figure de la Parisienne. Elle ne se résume pas à une opposition binaire des pauvres aux riches ou de la bourgeoisie à la noblesse.
Alors évidemment, la Parisienne, comme l'indique ce terme qui renvoie à la ville, hein, et non pas à une classe sociale spécifique, a l'ambition de forger une catégorie qui dépasse ou qui transcende les classes sociales. Évidemment, c'est un fantasme. Dans le Paris du XVIIIe siècle, il y a encore de larges groupes de gens très pauvres, d'indigents qui ne sauraient prétendre à avoir accès à ces nouvelles modes ou à ces nouveaux modes de vie. Et ce sera encore plus vrai au XIXe siècle avec le développement de la révolution industrielle. Mais c'est précisément un des enjeux de cette Parisienne que de faire coaguler des groupes qui sont encore très éloignés les uns des autres, mais pour lesquels il faut forger justement un mythe séducteur qui va servir d'appât et qui va servir d'aimant.
Est-ce que c'est toujours vrai à l'époque de la Révolution et de l'Empire?
Alors, sous la Révolution en tout cas, on assiste plutôt à une dislocation ou à une remise en question de cette première synthèse, puisque précisément le peuple, et plus spécifiquement les femmes du peuple, qui sont largement ignorées ou idéalisées par la littérature du XVIIIe siècle, vont faire brutalement irruption.
Tricoteuses, poissardes.
Voilà, exactement, créant la frayeur des élites. et créant pour le coup les premières formes d'imagerie d'anti-parisienne qui continueront de traverser les révolutions du 19e siècle avec plus tard donc les pétroleuses de la Commune par exemple ou encore les bas bleus ou les vésuviennes de la révolution de 1848. Donc à chaque fois des types négatifs et répulsifs qui visent précisément à signifier que la parisienne ne peut pas s'inscrire dans la lutte des classes et dans le rejet ou la remise en question des modes de vie des élites.
Je relève l'emploi du mot « bas bleu ». Rappelez-nous d'où vient la formule. « Bas bleu », c'est la femme qui fait un étalage indu d'une fausse culture. D'où vient l'expression d'Angleterre ?
Alors, le terme est effectivement très péjoratif, très négatif. Il a apparemment été importé d'Angleterre, où c'était développé dans le salon de Lady Montagu, des réunions de femmes qui portaient des bas bleus, blue stockings. Et donc, dans la première moitié du 19e siècle, on commence à forger ce type répulsif du bas bleu qui est la femme savante, la femme à prétention littéraire ou intellectuelle. C'est un terme extrêmement misogyne. Mais dès les années 1830-1840, il est entendu que la Parisienne ne saurait être un bas bleu. Elle se doit d'avoir de la culture, elle va être l'héritière des fameuses salonnières du XVIIIe siècle, mais sur un mode léger, sur un mode un peu superficiel. Elle ne saurait rivaliser avec les hommes dans ce domaine.
Bas bleu, c'est naturellement une formulation dépréciative de la part des hommes, et on trouve à ce propos ce qui sera une des composantes du sujet que nous évoquons aujourd'hui, la parisienne, c'est-à-dire que c'est aussi un élément de l'histoire du féminisme.
Oui, c'est un élément de l'histoire du féminisme.
Et de ses limites.
Et de ses limites, puisque moi je considère que à l'origine c'est un type ou un fantasme entièrement forgé par et pour les hommes. C'est une sorte d'idéal de femme que construisent les élites masculines de la fin du 18e ou du début du 19e siècle, en faisant une espèce de synthèse de leur protectrice, de leur maîtresse, de leur parfois aussi même des prostituées, hein, puisque le recours à la prostituée est tout à fait banal à cette époque. Pour les hommes.
L'éventail est large.
L'éventail est large, mais c'est aussi pour cette raison que la Parisienne va avoir un petit peu cette apparence de chimère, va avoir cette instabilité qui fait qu'on ne sait jamais trop qui elle est. Est-ce que c'est une femme du monde ? Est-ce que c'est une courtisane ? Est-ce que c'est une grisette ? Une femme de petite vertu ? Bon, en tout cas, c'est un mythe d'origine masculine et qui va susciter la méfiance des premiers mouvements féministes, notamment au moment de la révolution de 1848.
Méfiance en face aussi de l'empereur, à l'époque de l'Empire. Je relève qu'il écrivait à Joséphine « La nature m'a fait l'âme forte et décidée, elle t'a bâti de dentelle et de gaze ».
Effectivement, l'Empire va introduire et imposer un très fort dimorphisme de genre qu'on retrouve dans le Code civil, hein, ça a été souvent souligné. Donc à l'homme, la puissance, la virilité, mais aussi sa place légitime dans la sphère publique et politique.
Napoléon était exaspéré par Madame de Staël, par exemple.
Il est exaspéré par Madame de Staël, il est exaspéré aussi par toutes les merveilleuses du Paris du Directoire qui ont un mode de vie extrêmement libre, et parmi elles, bien sûr, Joséphine de Beauharnais, qui ne dissimulera guère ses nombreux amants et qui va susciter la réprobation et le courroux du mâle méditerranéen, de surcroît officier de carrière qu'est Napoléon.
Reste dans ta dentelle et dans ta gaz. Alors, arrivons-en, je sens que vous en avez le goût à la période du romantisme. Et pour y aborder, je vous propose cette lecture d'un poème très aimable d'Alfred de Musset, Conseil à une Parisienne. C'est un poème qui remonte à 1850 et qui est lu ici par Michel Vignier sur France Culture le 14 mars 1994.
Oui, si j'étais femme, aimable et jolie, je voudrais, Julie, faire comme vous. Sans peur ni pitié, sans choix ni mystère, à toute la terre faire les yeux doux. Je voudrais n'avoir de soucis au monde que ma taille ronde, mes chiffons chéris, et de pied en cap être la poupée la mieux équipée de Rome à Paris. Je voudrais garder pour toute science cette insouciance qui vous va si bien. Joindre, comme vous, à l'étourderie cette rêverie qui ne pense à rien. Je détesterai avant toute chose ces vieux teints de rose qui font peur à voir. Je rayonnerai sous ma tresse brune comme un clair de lune en capuchon noir. Car c'est si charmant et c'est si commode ce masque à la mode, cet air de langueur. Ah, que la pâleur est d'un bel usage. Jamais le visage n'est trop loin du cœur. Je voudrais encore avoir vos caprices, vos sourires novices, vos regards savants. Je voudrais enfin, tant mon cœur vous aime, être en tout vous-même pour 2 ou 3 ans. Il est un seul point, je vous le confesse, où votre sagesse me semble en défaut. Vous n'osez pas être assez inhumaine. Votre orgueil vous gêne. Pourtant, il en faut. Chacun, en valsant, vient sur votre épaule réciter son rôle d'amoureux transi. Ma beauté, du moins, sinon ma pensée serait offensée d'être aimée ainsi. Je ne voudrais pas, si j'étais Julie, n'être que jolie avec ma beauté. Jusqu'au bout des doigts, je serai duchesse. Comme ma richesse, j'aurai ma fierté. Voyez-vous, ma chère, au siècle où nous sommes, la plupart des hommes sont très inconstants. Sur 2 amoureux pleins d'un zèle extrême, la moitié vous aime pour passer le temps.
Alfred de Musset, 1850, conseils à une Parisienne. Emmanuel Retailleau, ce n'est pas sans tendresse ni sans subtilité.
Oui, j'aime beaucoup ce poème dans lequel Musset se moque très subtilement des minauderies et de la coquetterie qu'il prête aux jeunes parisiennes des salons de l'époque. En fait, si on veut résumer sa pensée, il dit... ça doit être très agréable d'être aussi charmante, de savoir maîtriser si bien les jeux de séduction. Mais prenez garde, car vous ne devez pas oublier qu'en face de vous, il y a des hommes qui sont tout aussi manœuvriers et
inconstants,
et qui risquent de vous faire souffrir et vous risquez d'être prise à votre propre jeu. Le poème s'inscrit bien sûr dans la sensibilité romantique en reprochant au fond aux Parisiennes une certaine imperméabilité à la passion authentique que défend le romantisme. Et finalement, Musset a abordé le même thème, mais d'une manière beaucoup plus sombre et passionnelle dans son célèbre roman « La confession d'un enfant du siècle ».
D'autres auteurs comptent, quand on aborde ce sujet de la Parisienne, je pense évidemment à Balzac, on retrouve très clairement l'opposition Paris-Province, c'est la provinciale, qui est une figure balzacienne et qui, par différence, ne fait que souligner les traits propres à la Parisienne.
Oui, alors effectivement, on peut considérer que Balzac, dans les années 1830, c'est vraiment l'inventeur de la Parisienne. Et cette Parisienne, elle existe en relation dialectique avec la provinciale, chacune avec ses défauts et ses qualités. On ne peut pas dire que Balzac défende véritablement la provinciale contre la parisienne, même si dans Le Lys dans la vallée, Madame de Mortsauf, qui incarne vraiment la pureté parisienne...
Elle était le Lys de cette vallée.
Voilà, apparaît comme une forme d'idéal. Mais les parisiennes de Balzac sont très souvent extrêmement piquantes, extrêmement séduisantes. On pourrait faire aussi un parallèle d'ailleurs avec le Rouge et le Noir qui dresse aussi une opposition entre parisienne et provinciale.
Madame de Rênal d'un côté, Mathilde de la Mole de l'autre. Il finit par revenir à la provinciale, enfin il la tue.
Oui, mais là encore, il y a cette ambiguïté et finalement cette relation dialectique de l'une à l'autre, les héros balzaciens ou stendhaliens ayant finalement du mal à choisir entre ces deux pôles de la féminité qui se constituent en type à ce moment-là.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeanneney.
C'est aussi le temps du développement de la presse, en particulier la presse féminine, qui est un support désormais essentiel pour le mythe de la Parisienne. Je pense à cette figure intéressante qui est Delphine de Girardin, qui a épousé le grand fondateur d'une presse populaire, Émile de Girardin, et qui elle-même mérite d'être considérée, car elle joue un rôle important à la naissance de cette presse féminine.
Tout à fait, mais Delphine de Gérardin, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va faire ses premières armes justement dans le journal de son mari, La Presse, où elle va tenir une chronique mondaine qui connaît un énorme succès, qui s'appelle justement Les Lettres parisiennes, et dans lesquelles elle commente l'actualité du moment, mais sur un mode extrêmement léger, prime sautier, avec un très grand talent de plume, sauf que elle écrit sous un pseudonyme masculin qui est celui du vicomte de Delaunay. Ce qui nous montre bien qu'il est encore difficile à cette époque pour une femme toute parisienne qu'elle est, parce que Delphine de Gérardin était aussi une femme élégante, à la mode, qui écrivait, qui tenait salon, mais il est encore difficile de faire carrière dans le journalisme. Et en fait, la vision de la parisienne que renvoie la presse de mode, le journal des Dames et des Modes, ou un peu plus tard le Moniteur des Modes, renvoie une image beaucoup plus conventionnelle qui enferme un petit peu la parisienne dans la sphère unique de la mode, de l'élégance, sans véritablement évoquer ses autres facettes, hein, les actrices, le théâtre, voire la galanterie.
Les lionnes, donc... les lionnes et les grisettes, même les courtisanes. On voit constamment, au cours de votre réflexion, d'Emmanuel Retailleau, cette rencontre, d'un côté, le principe d'une parisienne enserrée, enfermée dans la mythologie qui l'entoure, et d'autre part, la signification d'une liberté conquise.
Oui, alors cette liberté, elle est quand même très ambiguë, surtout dans la première moitié du 19e siècle. Après, ça va un peu muter avec le temps. Est-ce que c'est cette pseudo-liberté, justement, cette indépendance dans la coquetterie? Le mythe, c'est que finalement, les hommes sont aux pieds des Parisiennes.
Mais Musset disait que c'est pour 2 ou 3 ans.
Voilà, exactement. Et puis surtout, c'est une liberté quand même très relative, puisque ces femmes sont pour certaines exploitées sexuellement quand il s'agit justement des courtisanes ou des grisettes. Tandis que pour les femmes du monde ou les femmes de plume comme Delphine de Gérardin, la liberté est quand même très très limitée. C'est surtout de manière comparative qu'elle doit s'apprécier, je crois, car le préjugé qui va s'installer à ce moment-là, mais qui est en partie vrai, c'est que les Parisiennes ont un tout petit peu plus de jeu que leurs équivalents dans d'autres pays d'Europe, notamment en Angleterre, où va s'installer la chape de plomb, hein, du victorianisme et d'un enfermement des femmes dans la sphère domestique.
C'est un peu le thème qui se développe au moment du Second Empire, où du monde entier viendrait à Paris pour ce qu'on pourrait appeler une sorte de tourisme sexuel. Tous ceux qui ont rêvé loin, je pense naturellement au premier chef, à la vie parisienne, cet immense succès d'Offenbach sur un livret de Henri Meillac et Ludovic Halévy, 1866, où on voit en particulier le Brésilien qui a été ruiné par les femmes parisiennes et qui est parti, refait fortune et revient. Je suis brésilien, j'ai de l'or, etc. Mais un autre personnage, c'est un Suédois, le baron de Gondremac, qui arrive et qui veut s'en fourrer jusque-là. Il veut voir dans la capitale toutes les actrices qui font fureur et il tombe dans les mains des greffins. Et le passage que je vais vous donner à entendre, c'est un extrait de l'acte 3, est interprété en 1959 par Simone Valère dans le rôle de Gabriel. Et il y a Paredes, que vous entendrez au début, qui joue le rôle du bottier. Les domestiques sont chargés de faire semblant d'être des gens du monde. Et c'est une intéressante interprétation de la troupe de Jean-Louis Barrault et Madeleine Renaud à la fin des années 50, où les acteurs ont pris goût à chanter. En l'occurrence, Simone Valère et la Parisienne quand elle se déplace.
Ah, quelle toilette, mesdames, je les trouve adorables. Cependant, je préfère encore les toilettes que les Parisiennes font pour se promener à pied.
Vous êtes un observateur.
Oui.
Il n'y a que les Parisiennes qui sachent sortir à pied. On va courir, on va sortir à pied, pas en berline. On va pouvoir en laisser voir un peu plus haut que la bottine. Ah, que d'après, ne sois coquet, qu'elle tracas pour la chambrière. Enfin, c'est fait, elle paraît la Parisienne armée en guerre. En la voyant, on devient fou et l'on ressent là comme un choc, comme un choc, comme un choc. Sa robe fait frou, 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 ses petits pieds font toc, toc, toc. Sa robe fait frou, 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 frou. Sa robe fait fou, 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 ses petits pieds font toc, toc, toc. Sa robe fait fou, 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 fou
Vous aviez l'air contente en écoutant Offenbach, Emmanuel Retailleau.
Oui, c'est une autre des grandes chansons sur la parisienne, à un moment qui peut être considéré comme une des apogées de sa célébrité sous le Second Empire. Ce qui est amusant dans cette opéra bouffe, c'est justement l'ambiguïté sociale de ces parisiennes affublées de surnoms cocasses, et que bien sûr l'oreille du parisien s'est décelée comme inauthentique, mais que le touriste prend au premier degré pour de véritables aristocrates.
Le baron suédois, oui.
Exactement. Et donc, à une époque, le Second Empire, où les parisiennes les plus célèbres sont essentiellement les grandes courtisanes, ou bien des aristocrates un petit peu dévoyés, ayant un mode de vie extrêmement libre, comme la comtesse de Castiglione, par exemple, qui donc participe à cette réputation très sulfureuse de la capitale française.
C'est la dame que Cavour avait envoyée dans les bras de Napoléon III.
Tout à fait.
Stratégie.
Parmi d'autres, ça n'était pas la seule.
Les Alcours, je voulais bien nous jeter un voile de pudeur sur ces éléments de votre compétence, Emmanuel Retailleau. Et c'est le temps de l'haussmanisation aussi. Paris bouge beaucoup.
Paris se transforme énormément et Paris grandit. Sa population augmente très rapidement et son périmètre s'étend avec l'annexion de 1860. Donc, ça crée effectivement des effets de contraste sociaux très poussés. Ça aboutit aussi sous le Second Empire, la Parisienne est particulièrement élitiste. C'est vraiment la Parisienne des élites privilégiées, des élites masculines qui ont les moyens d'entretenir des maîtresses, d'aller chez les femmes du monde. Et le peuple, à ce moment-là, la figure populaire de la Parisienne apparaît sous la figure dégradée de la prostituée, ce qui du coup suscite une contre-littérature qui justement cherche à réhabiliter un petit peu la morale et la vertu de ces Parisiennes du peuple qu'on ne peut pas réduire à de simples instruments de plaisir pour les élites.
À quels auteurs pensez-vous ?
Je pense notamment, par exemple, à l'ouvrage de Jules Simon, L'Ouvrière, qui est un des premiers philanthropes républicains à insister sur la distorsion d'image entre la littérature pittoresque et le vécu des classes populaires.
Jules Simon, qui deviendra un des leaders de la République naissante, ce n'est pas tout à fait par hasard. Mais pour rester un instant dans ce Second Empire, on observe ce contraste entre une certaine permissivité, comme on dirait aujourd'hui, plus ou moins fantasmée, et la sévérité d'un certain nombre de tribunaux, par exemple, puisqu'on se rappelle les procès qui ont entouré Madame Bovary de Flaubert ou les Fleurs du Mal. Finalement, Flaubert a été acquitté, mais Baudelaire a été condamné, légèrement, mais condamné. J'observe que dans le journal des Goncourt, on peut lire ces lignes. Notez bien que le jour même où la société, par la voix du substitut qui s'en est pris, substitut du procureur qui s'en est pris à Flaubert et à Baudelaire en 1857, c'est le fameux Pinard. Ce jour-là même où la société, par la voix du substitut, nous accusait de le corrompre, cette même société tenait ouvertes les maisons de tolérance, devait ouvrir le soir les théâtres, les coulisses, tous les tripots d'actrices, sans compter les bals publics, sans compter les femmes décolletées, sans compter les 100 000 millions d'excitations à la débauche de la femme pour tromper son mari. Fin de citation.
Oui, la citation est particulièrement intéressante parce qu'elle souligne bien toutes les contradictions de ce régime qui joue constamment avec le feu, qui d'un côté est représenté par de nouvelles élites qui aspirent à de nouvelles formes de plaisir, de divertissement, et puis des élites aussi assez qui ont un rapport quand même assez distancié avec la religion, même si la morale religieuse est brandie est sans cesse réinvoqué pour servir de ciment social. Mais en réalité, les élites parisiennes impériales ont un mode de vie extrêmement relâché. Mais la peur du régime, finalement, c'est que cet aimable immoralisme gagne l'ensemble du peuple et tout particulièrement les couches rurales qu'il faut continuer à tenir.
Et c'est ce qu'on craint, vous voulez dire.
Oui, c'est ce que le régime craint.
Vous ne le posez pas comme un fait, vous le posez comme une inquiétude.
Oui, absolument. Et c'est ce qui explique aussi que le régime va constamment chercher à contrôler les écrits et les spectacles qui seraient susceptibles de diffuser cet immoralisme au sein de l'ensemble de la population, d'où effectivement c'est les procès de 1857, mais qui, il faut quand même le rappeler, se soldent par des acquittements ou des peines extrêmement légères.
La Parisienne de la Belle Époque est intéressante aussi avant 1914. C'est la Parisienne de l'Exposition Universelle de 1900. C'est un apogée, nous dites-vous, de pictural en tout cas, parce que la culture de masse intervient, et ça c'est très nouveau, avec la photographie, les cartes postales, les chansons. Vous avez relevé toute une série de chansons, j'aurais pu ne donner comme archive que des chansons aujourd'hui. Elles sont de qualité inégale vers 1900. Et puis c'est le moment où on commence à parler du chic et du chien. Ça, c'est intéressant. Rappelez-nous d'où vient l'expression « le chic et le chien ». Ça pique la curiosité.
Oui, alors le chic, à l'origine, c'est du jargon d'atelier de peinture.
Qui vient de l'allemand.
Qui vient de l'allemand, absolument. Et c'est un terme plutôt péjoratif. Peindre de chic, ça veut dire peindre de mémoire, et donc de manière un peu stéréotypée et simplifiée.
Ça devient le chic parisien.
Mais progressivement, effectivement, ça signifie aussi, c'est aussi synonyme d'une certaine forme d'aisance, de désinvolture qui va être progressivement appliquée au costume ou à l'allure. Et à la fin du 19e siècle, le chic désigne effectivement soit l'élégance vestimentaire, soit cette espèce de je ne sais quoi qui permet d'avoir.
Elle avait un je ne sais quoi.
Elle avait un je ne sais
une
quoi.
Chanson.
Une notion tout à fait fondamentale dans la parisienne, mais qui témoigne finalement d'une certaine incapacité du langage à la définir. Au fond, le charme ou la séduction de la parisienne, c'est quelque chose sur lequel on n'arrive pas à mettre véritablement le doigt, mais qui se diffuse comme ça et qui renvoie aussi à un certain érotisme.
Quand on dit qu'elle a du chien, d'où vient l'expression ?
Alors, le chien, l'expression, l'origine de l'expression est controversée. Ça peut désigner soit le petit chien que les élégantes sont censées promener avec elles, soit la coiffure à la chien, qui était apparemment un chignon relevé sur le sommet du crâne avec et retombant en boucle séduisante sur le front. En tout cas, au milieu du... En 1866, Larousse nous dit que c'est une expression assez vulgaire. Avoir du chien, c'est vraiment réservé aux femmes de mauvaise vie. Mais là encore, à la fin du 19e siècle, le portrait s'est adouci. Et le chien de la Parisienne, on dit parfois aussi avoir du montant, une expression que j'aime beaucoup, même si elle est un petit peu passée de mode.
Nous allons la réhabiliter.
Nous allons la réhabiliter, absolument.
Qu'est-ce que cela veut dire et d'où cela vient-il ?
Avoir du montant, ça veut dire justement avoir une certaine aisance, avoir un certain sex appeal. Hein. L'expression n'est pas encore utilisée, mais elle peut être appliquée finalement à ce type de séduction fortement érotisée de la Parisienne. Ça connote aussi l'assurance, l'aplomb, une séduction qui finalement n'est pas fondée exclusivement sur la joliesse ou sur la beauté.
On ne s'étonne pas que le mot de sex appeal ne soit pas encore à la mode, puisqu'on voit que Jules Vallès, grand journaliste, l'auteur de L'Enfant, Le Bachelier, etc., écrit à ce moment-là « L'anglaise n'a jamais ce je ne sais quoi, toujours ce je ne sais quoi, qui fait qu'une Parisienne vous ramasse le cœur d'un geste et laisse tomber le désir de sa jupe ».
Oui, la citation est particulièrement intéressante parce qu'il faut pas oublier que Vallès se situe quand même à l'extrême gauche. Hein, c'est un ancien communard. Quand il écrit ces lignes, il est en exil à Londres et il réinvestit finalement des poncifs conservateurs ou grivois qui a priori ne sont pas du tout dans sa culture politique et personnelle, mais on sent percer une forme de nostalgie. Et puis pour le pays dont il a été exilé, mais peut-être pense-t-il aussi à la journaliste Séverine, hein, dont il a été proche et qui incarne justement cette synthèse entre l'élégance parisienne. Elle vient d'un milieu plutôt aisé, elle a toujours été évoquée comme une femme séduisante et élégante, mais en même temps, qui s'engage, qui devient journaliste et qui milite pour la République.
Mais tout en s'engageant, chaque fois qu'elle provoque par ses articles virulents des duels, elle charge son amant de se battre à sa place, ce qui évidemment du côté des féministes en pointe apparaît comme très, très choquant. Je parle de Séverine.
Oui, mais à l'époque, de toute façon, une femme pouvait difficilement faire autrement. Elle n'avait absolument pas la solution de se battre en duel.
Il y a eu quelques duels, notamment du côté de la Belgique, ce qui excitait d'ailleurs beaucoup la lubricité des hommes. L'entre-deux-guerres est une période intéressante parce qu'on a le sentiment d'une libération de la femme, au moins parisienne, par rapport à l'emprise que les bourgeoises continuent de subir.
Une libération, oui, mais une libération quand même un petit peu en trompe-l'œil et assez limitée, hein, puisque comme vous le savez, les Françaises, notamment, n'obtiennent pas le droit de vote que la plupart de leurs consoeurs occidentales vont obtenir à cette période.
Donc, elles ne peuvent pas non plus ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation de leur mari.
Absolument, et toute une série d'entraves diverses et variées. Donc en fait, cette liberté, elle est surtout comportementale et je dirais stylistique, et c'est bien précisément ce qui définit la Parisienne. Mais ce qui m'intéresse pour cette période, c'est que c'est vraiment à ce moment-là que se fixent les fondamentaux du style parisien sur le plan stylistique, grâce notamment à Coco Chanel, qui est la couturière qui domine la période, c'est-à-dire cette idée d'une sobriété élégante. On parle même parfois à l'époque de style pauvre pour caractériser ces nouvelles modes simplifiées par rapport aux modes très enjolivées de la belle époque.
C'est aussi le temps de la garçonne. Est-ce que c'est une parisienne, la garçonne? Alors, Victor Marguerite,
la
qui a fait un vrai scandale. Oui.
C'est indiscutablement...
Elle veut vivre comme un homme.
Une parisienne, puisque Paris, à ce moment-là, est identifiée comme une des grandes capitales culturelles. Mais la garçonne, personne, il ne faut pas l'oublier, le roman de Marguerite est en fait assez conservateur, puisque Monique Lherbier, l'héroïne, se libère, mais elle va être malheureuse et elle trouvera finalement son équilibre dans un mariage tout à fait classique.
Ça n'empêchera pas que la République raye Victor Marguerite, l'auteur de la Légion d'honneur, pour manifester son indignation.
Le roman suscite effectivement un scandale, mais c'est aussi parce qu'il a été lu un petit peu de travers et parce que cette figure de la femme émancipée choque énormément cette époque qui sort de la Première Guerre mondiale.
La définition de la Parisienne, à quoi nous consacrons cette émission, à l'époque de l'entre-deux-guerres, est aussi peaufinée par un certain nombre d'émergences de chanteuses, par exemple. Je vous ferai entendre tout à l'heure sous notre générique la fameuse chanson de Joséphine Baker, « J'ai deux amours, mon pays et Paris ». Mais je voudrais revenir, avant que nous séparions Emmanuel Retailleau, je voudrais revenir sur la Parisienne et le monde entier. Autrement dit, cette fascination qu'on voyait déjà à l'époque du Second Empire et qui continue de se développer et dont tire profit la mode parisienne, les théâtres. Écoutez donc cette chanson d'Yvette Giraud, qui remonte à 1953, qui s'appelle curieusement, vous allez comprendre pourquoi, « Une Parisienne à Panama », sur des paroles de Marc Héral et de Géo Bonnet. Yvette Giraud, 1953.
Quand une Parisienne se promène à Panama, toutes les Panamiennes lui emboîtent le pas. Elles vont en file indienne en murmurant à demi-voix. C'est fou cette Parisienne, voyez quel chic elle a. Ah, son petit tailleur pincé, son petit chapeau français et ses gentils petits souliers. Ah, son sac à main verni, ses gants, son parapluie et sa voilette en organdi. Quelle est jolie, jolie, la mode de Paris. Jamais vraiment je n'ai rien vu d'aussi charmant. Et chaque panamienne rentre vite sous son toit pour filer de la laine ou coudre de la soie. Pendant qu'à perdre haleine en trottinant à petits pas, la belle parisienne visite Panama. Quand une parisienne se promène à Panama, son petit tailleur de laine la gêne à chaque pas. Voyant les panamiennes, elle soupire et dit tout bas comme elles ont de la veine par cette chaleur-là. Ah, un grand chapeau de paille, un collier de corail et des fleurs autour de la taille. Ah, deux petits bouts de tissu, le corps à moitié nu et beaucoup de soleil dessus. Quelle jolie, jolie, la mode du pays. Jamais vraiment je n'ai rien vu d'aussi charmant. Chez un vieil indigène, le soir même, elle troqua sa belle tenue mondaine contre un pagne en raffia. Mais par un phénomène que personne n'expliqua, toutes les panamiennes qu'ensuite elle rencontra portaient tailleur de laine et parapluie de soie.
En écoutant cette chanson, je pensais à ce mot de Léon-Paul Fargue dans Le Piéton de Paris 1964 qui disait « Il est bien difficile de dire ce qu'est une Parisienne. En revanche, on voit très bien ce que c'est qu'une femme qui n'est pas parisienne. Panama, a dû s'en apercevoir.
Oui, effectivement, un des enjeux forts du mythe de la Parisienne, c'est de se constituer en modèle international et d'avoir vocation à influencer l'ensemble des femmes du globe, notamment du point de vue de la mode. Mais ce que je trouve amusant dans la chanson, c'est qu'il y a un renversement, en fait, puisque dans les premiers couplets, la Parisienne est un modèle d'élégance, qui ensuite se rend compte que son petit tailleur un petit peu apprêté, et puis surtout pas du tout adapté au climat, ne fait pas l'affaire et commence à soupirer après les modes des panamiennes. Et on est au début des années 50, justement, au moment où les modes vestimentaires vont commencer à changer, à s'assouplir, et où le chic de la Parisienne commence à être un petit peu datée, ou en tout cas à être concurrencée par de nouveaux modèles venus d'Hollywood ou venus d'ailleurs.
La Parisienne avait surnagé pendant l'époque de l'occupation, sous le regard bienveillant et concupiscent de l'occupant allemand, avec des personnalités comme Arletty, comme Corinne Lucher, comme Mireille Balin, etc. Et on a pu craindre, certains ont pu craindre qu'en partant de 1945, ce soit un mythe disparu. Mais pas du tout, il est sauvé au fond par la mode. Par Dior, par...
Oui, effectivement, la Parisienne sort quand même un petit peu abîmée de l'occupation parce qu'elle symbolise justement une forme de frivolité apolitique qui s'est très bien accommodée de l'occupation, parfois même avec des dérapages sérieux. Et il y a un contre-modèle qui s'organise, qui est celui des résistantes, celui ou encore, par exemple, du journal Marie-France qui défend une vision de la femme beaucoup plus digne et aussi beaucoup plus impliquée dans la vie publique, politique et citoyenne. Mais la mode, c'est un enjeu économique important pour la France et c'est aussi un enjeu symbolique et culturel. C'est pour ça que dès 1945, les pouvoirs publics vont faire en sorte de redynamiser ce secteur et vont organiser une tournée, le fameux petit théâtre de la mode qui met en scène des mannequins vêtus des dernières créations des couturiers parisiens qui va faire le tour du globe et connaître un grand succès.
C'est cette survie qui n'était pas forcément prédictible en 1945, dont témoigne cette interview. Ce sera notre dernière archive, cette interview de Coco Chanel par Sophie Dumoulin à propos de la mode du pantalon, vous allez voir, sur France Inter le 23 juillet 1970. La mode française reste impérieuse.
Chaque année, vous apportez des détails nouveaux. Quels sont ceux de cette année?
D'abord, d'avoir fait des costumes très courts, d'avoir supprimé les longs tailleurs. C'est joli, ça fait une jolie mode qui allonge les jambes et qui fait un petit peu mine de pantalon, puisqu'on aime cette ligne. Parce que je suis contre le pantalon hors de la campagne. À la campagne, chez soi, on peut faire ce qu'on veut, ça n'a pas d'importance. Mais se promener dans les rues habillé en monsieur, je ne comprends pas ce que ça veut dire. D'abord parce que ce sont des hommes laids. Peut-être que je serais contente si je voyais des beaux hommes, mais une femme ne fait jamais un bel homme. Il a le derrière trop bas, il a les épaules pas assez larges. Les femmes sont fortes quand elles sont féminines. Tant qu'elles ne sont pas féminines, quand elles ne le seront plus, zéro, aller faire le ménage. Oui, c'est sûr. Figurez-vous une femme enceinte en pantalon, enfin. C'est indécent. Rien que d'y penser, c'est indécent. Pour l'enfant, pour les gens qui l'ont fabriqué, c'est indécent pour tout le monde. C'est affreux. Non, il faut supprimer cette mode-là pour les Français. Nous ne sommes pas des gens frivoles à ce point-là, tout de même.
C'était Coco Chanel, donc Emmanuel Retailleau, à peu près à l'époque de Marie-Paul Belle, un peu avant. On voit bien comment on peut imaginer que s'affrontent le féminisme, les combats du MLF, le féminisme en marche, et ce type de rémanence qui caractérise la Parisienne telle que vue par cette grande dame qui est Coco Chanel.
Alors ce qui est intéressant et paradoxal dans ce témoignage, c'est qu'il est assez tardif, du coup assez conservateur, car Chanel renie un petit peu les principes qu'elle a elle-même contribué à diffuser au début du XXe siècle.
Le pantalon.
Et elle s'en prend au pantalon, mais dans les années 1910-1920, elle a été une des premières à porter des pantalons de marin et à prôner une mode plus pratique pour les femmes. Et il est assez singulier qu'elle prenne l'exemple de la femme enceinte alors qu'elle n'a jamais eu d'enfant et qu'elle n'a jamais spécialement valorisé la famille. Et à un moment où justement des couturiers comme Saint-Laurent vont commencer à diffuser le tailleur pantalon. Donc on voit bien comment finalement la marche de l'histoire a contribué à la faire passer progressivement d'une position assez avant-gardiste et progressiste à une position beaucoup plus traditionnelle.
Féminisme et parisienne, est-ce que c'est un oxymore?
Oui et non. À la fin du 19e siècle, quand commence justement à s'organiser le féminisme français, il y a un rejet de l'image de la femme qu'a créé la société française à travers la parisienne, avec cette idée justement qu'il faut en finir avec la frivolité, l'obsession des modes, l'obsession du paraître et de la séduction. Donc beaucoup de féministes vont prôner une forme de, d'austérité, voire de babloïsme, mais cette fois sous une forme réhabilitée. Mais on a quand même des figures, une figure comme Marguerite Durand par exemple, qui va essayer de faire un petit peu la synthèse entre les deux. Puisque,
grande journaliste féministe, la Fronde.
Oui, mais aussi actrice à l'origine, et qui n'a jamais renoncé très volontairement à son élégance et à son style tout, tout parisien. Et on peut dire que justement, à partir des années 60-70, il y a une tentative de fusion entre les deux types, incarnés par des femmes comme Sonia Riquel, par exemple, qui vont à la fois être des couturières défendant l'idée d'un, d'une modernisation du chic parisien, mais aussi défendant un certain intellectualisme, Saint-Germain-des-Prés, la littérature.
Elle donne à connaître des livres toujours dans son, dans son magasin qui est au coin de la rue des Saints-Pères et du boulevard Saint-Germain.
Absolument. Alors, est-ce que c'est un petit peu cosmétique? Est-ce que c'est une simple opération de marketing publicitaire? Ou bien est-ce que ça renvoie plus profondément à cette idée de culture qui serait au cœur du mythe de la parisienne?
Je pense que c'est la deuxième branche. Je pense que c'est la deuxième branche, en l'occurrence, de l'alternative. Est-ce qu'il y a antagonisme entre la marche en avant du féminisme, le combat pour une plus d'égalité des deux sexes dans la société, et le mythe de la parisienne?
Le féminisme est nuancé, il renvoie à tout un éventail de positions, et il est vrai qu'au sein du féminisme français, il y a eu un débat tout de même assez récurrent pour savoir si les femmes devaient remettre en cause frontalement la domination masculine, entre guillemets, et toutes les implicites qui vont avec, ou bien si au contraire il pouvait y avoir des formes d'accommodement, le fameux féminisme à la française qui a été défendu par la sociologue Irène Théry, par exemple, ou encore par les signataires du fameux manifeste très controversé sur le droit d'être importuné, mais qui renvoyait quand même à cette idée qu'il fallait conserver une certaine harmonie des rapports entre les sexes et qui pouvait s'accommoder aussi de certains jeux de rôle traditionnels.
Eh bien, nous resterons sur cette conviction qu'il n'y a pas antagonisme entre féminisme et la figure de la Parisienne. Merci beaucoup, Emmanuel Retailleau. Votre livre s'appelle « La Parisienne, histoire d'un mythe du XVIIIe siècle à nos jours ». Il est à paraître dans quelques jours, le 20 février, aux éditions du Seuil. Et puis vous venez de donner un chapitre très intéressant, très éclairant, sur la période des années folles, des années 20, dans un livre que Dominique Khalifa organise aux éditions Gallimard, qui paraît ces jours-ci, qui s'appelle « Les noms d'époque ». C'est tout à fait stimulant. Vous pourrez trouver une bibliographie plus complète sur notre site, avec les références des documents que nous avons utilisés, parlés ou chantés, et vous pourrez également écouter, réécouter et podcaster cette émission. Samedi prochain, nous nous éloignerons, encore que, on verra. Nous parlerons des sorcières, haïes et fascinantes. Et pour cela, je recevrai Michel Porret. Je signale que la semaine prochaine, Xavier Mauduit, dans le cours de l'histoire, parlera du thème de l'enfance.
Et deux amours, ton pays est Paris.
Eh bien, c'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Domitille de Gavrilov et Claire Poissignon, réalisée par Yaël Mandelbaum, avec à la prise de son Swad Boukorsa, avec à la discothèque Nathalie Rouvillain, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Marie Chauveau. Et dans quelques instants, vous allez retrouver Christine Ockrent pour Affaires étrangères.
C'est ton rêve joli.